Art Story. Une histoire, une œuvre d'art. Cette semaine, l'école de Fontainebleau ou le rêve italien de François Ier. Alors que s'ouvre le Festival de l'Histoire de l'Art au château de Fontainebleau ce vendredi 2 juin, j'ai décidé de vous raconter l'histoire de l'école de Fontainebleau, l'histoire de François Ier qui appelle à sa cour des artistes italiens. Aujourd'hui, évidemment, le château de Fontainebleau offre un excellent exemple de cette période particulière où l'art italien s'invite à la cour de France. En 1530, à Fontainebleau, s'ouvre ainsi un chantier exceptionnel sous les auspices de François Ier. Le roi mécène, fasciné par l'Italie, invite à sa cour des artistes de la péninsule qui, par un mariage singulier du maniérisme italien et du goût à la française, transforme le vieux château féodal en une demeure fastueuse. Le roi François Ier l'accueillit avec une faveur marquée et lui accorda toutes sortes de biens et d'honneurs, écrit l'historien d'art du XVIe siècle Giorgio Vasari à propos de l'arrivée de Rosso Fiorentino à la cour de France en 1530. François Ier, sur la recommandation du célèbre écrivain vénitien L'Aretin, décide de s'attacher les services de ce peintre florentin, âgé de 36 ans, réputé pour sa manière moderne et sa vivacité d'esprit. Il n'est pas le premier choix du monarque, qui avait d'abord fait sa proposition à Michel-Ange et au brillant Jules Romain, peintre des Gonzagues à Mantoue. Mais suite à leur refus, il se tourne vers Rosso, le peintre roux, comme on l'appela à la cour, à cause de la couleur de ses cheveux, dont il possède déjà un tableau. Rosso, sans attache, exilé de Rome après le sac de la ville par Charles Quint en 1527, éloigné de sa Toscane natale et réfugié chez l'Aretin, accepte avec joie. Dès son arrivée, François Ier tombe sous le charme de l'artiste, le nomme même chanoine de la Sainte-Chapelle et lui confie la direction de la décoration intérieure du château. 14 ans après la venue de Léonard de Vinci à Amboise, le roi pouvait-il se douter qu'un autre Florentin marquerait si profondément l'évolution des arts en France ? Bien plus qu'en roi, François Ier se pense en nouveau César. Fontainebleau, avec sa grande forêt giboyeuse où il peut s'adonner à la chasse, est sa résidence favorite. Abandonnant le Val-de-Loire des premières années de règne, il décide d'y installer la cour dans un faste digne d'une nouvelle Rome. Son grand modèle est celui des cours italiennes, foyer artistique propice à l'émergence de génies, dont il eut le privilège d'être l'ami du plus grand d'entre eux, Léonard de Vinci. Mais le temps a passé, la défaite de Pavie en 1525 a balayé le souvenir victorieux de Marignan de 1515. Pour autant, François Ier n'a pas renoncé à son rêve italien, qui se réalisera non dans ses conquêtes militaires, mais à travers ses ambitions artistiques. Fontainebleau, à l'aspect délabré et au donjon moyenâgeux, doit devenir un grand palais et un foyer artistique où peintres, sculpteurs, orfèvres et lissiers redoublent d'inventivité pour plaire au roi. Dans ces murs vont résonner pendant 30 ans les noms italiens de Rosso, Primatis, Benvenuto Cellini, Sebastiano Serlio, Niccolò dell'Abate et j'en passe. Tous contribuent à créer le mouvement artistique que le 19e siècle appellera École de Fontainebleau, porte-drapeau de la Renaissance française. Chantre du maniérisme florentin, Rosso décore Fontainebleau de ses courbes sinueuses et de ses couleurs aux teintes acides et métalliques. Les corps nus se contorsionnent et les allégories inspirées de la mythologie et de la littérature contemporaine, telles que le Roland furieux de l'Arioste, servent une épopée royale à la gloire de François Ier. Pendant ces années romaines, Rosso avait été subjugué par Michel-Ange, dont il n'oublie pas l'enseignement des fresques au plafond de la chapelle Sixtine. Il revisite le maître, déforme les proportions. Son audace est bientôt complétée et même surpassée par celle de son compatriote, le Bolognais Francesco Primatis, qui arrive à Fontainebleau en 1532 pour le seconder. Lui a travaillé auprès de Jules Romain à la décoration du Palais du Thé à Mantoue, qui allie déjà, dans une combinaison originale, la technique du stuc à celle de la fresque. De la même manière, à Fontainebleau, dans une infinie richesse ornementale, Rosso et Primatis imaginent des stucs en haut relief, encadrant des fresques et y ajoutent des détails de décor encore jamais vus dans la grammaire de la Renaissance, comme les fameux cuirs découpés à l'enroulement capricieux. Le style sophistiqué de l'école de Fontainebleau était né, dont le témoignage le plus abouti et le mieux conservé aujourd'hui est la galerie François Ier. On dit que François Ier gardait la clé de cette galerie du château, toujours sur lui. Il était le seul à pouvoir accéder à ce lieu privilégié qui reliait la chambre à coucher à la chapelle, comme un cheminement symbolique du terrestre vers le céleste. Entre 1533 et 1539, Rosso embellit ce corridor lumineux, un espace inconnu pour lui, l'architecture de la galerie n'existant pas encore en Italie. Il y réalise les fresques aux thématiques diverses, sans lien apparent, ce qui a donné lieu à de multiples interrogations. Dans la partie inférieure, des lambris de bois sculptés par Sibec de Carpi rehaussent l'ensemble. Aujourd'hui encore, la galerie reste une énigme. Qu'a voulu dire le roi à travers ce décor complexe qu'il vantait à ses invités de marque? Y a-t-il un sens caché? L'humanisme renaissant était en effet porté sur les savoirs occultes, censés donner le pouvoir de gouverner, et François Ier n'échappait pas à cette croyance. Encore de longilignes cariatides de stuc de grande dimension, chaque cadre raconte une histoire allégorique, comme le miroir des vertus du roi, montré en habit de César, au milieu de son peuple, une grenade à la main, symbole de prodigalité et de concorde, ou bien en éléphant majestueux, fleur de lys, symbole de puissance royale. Des références également à son destin de jeune roi, qui a dû affronter des guerres, sacrifier ses fils. Pour compléter l'ensemble, le F de François et son emblème, la salamandre dans le feu, qui ne se consume jamais, sont déclinés à l'envi. À la mort de Rosso en 1540, Primatis lui succède jusqu'en 1570, des années qui voient l'arrivée de l'architecte Sebastiano Serlio, de l'orfèvre Benvenuto Cellini et du peintre Niccolo dell'Abate. Cette communauté d'artistes italiens porte le style bellifontin à sa quintessence, même après la mort de François Ier en 1547. La plupart des décors a aujourd'hui disparu pour cause d'agrandissement du château au fil des siècles, comme ceux de l'appartement des Bains, où François Ier aimait exposer ses chefs-d'œuvre comme la Joconde de Léonard, ainsi que la chambre du roi, le pavillon des poêles, une partie de la chambre de la duchesse des Tempes, transformée en escalier au XVIIIe siècle, et surtout la galerie d'Ulysse, peinte par Primatis, chef-d'œuvre qui comparait le roi au héros de l'Antiquité, une vraie perte pour comprendre l'école de Fontainebleau. Ces décors nous sont cependant parvenus à travers des dessins et des gravures et un cycle de tapisseries commandé par François Ier et réalisé à Fontainebleau, conservé aujourd'hui au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Reste aussi la sublime Danae, unique peinture de Primatis dans la galerie François Ier, qui nous donne une image in situ du talent de ce peintre. Son pendant s'émêlé a été perdu. L'originalité et la sensualité des œuvres de l'école de Fontainebleau exercent une forte séduction sur les artistes français de l'époque. Primatis lui-même accède à d'autres commandes en dehors de Fontainebleau, en particulier pour le cardinal de Ferrare. Grand ami de François Ier, il peint la chapelle de l'abbaye de Chaalis, récemment restaurée, et le plafond de la salle d'étuve de son hôtel particulier, qui s'appelait le Grand Ferrare et qu'il avait fait construire juste en face du château de Fontainebleau et dont il ne subsiste que le porche d'entrée. Le style Bellifontain sera ainsi propagé à travers la fantaisie ornementale de Rousseau, l'érotisme de Primatis et le raffinement du motif de la nymphe de Fontainebleau de Cellini, repris dans les livres imprimés et les gravures, ainsi que par les peintres Jean Cousin et François Clouet, ou à travers les nymphes du sculpteur Jean Goujon, formant un nouveau vocabulaire décoratif. C'est ainsi qu'à la fin du XVIe siècle, une deuxième génération, appelée Seconde École de Fontainebleau, voit le jour, incarnée par deux artistes français, Toussaint Dubreuil et Martin Fréminet, et un maître flamand, Ambroise Dubois, qui travaillent eux aussi à Fontainebleau, toutefois plus sagement. Avec eux, le rêve italien de François Ier devient français, mais jusqu'à aujourd'hui encore, seul le roi, restaurateur des arts à la cour de France, connaît le secret des décors bellifontains qu'il a emportés avec lui. Alors n'hésitez pas à vous rendre au château de Fontainebleau ce week-end à partir de ce vendredi 2 juin et le samedi et le dimanche. C'est le festival de l'histoire de l'art qui fait rayonner l'histoire des arts et qui va peut-être aussi vous donner les clés de certains décors, de certaines peintures, de certaines tapisseries. En tout cas, vous pourrez vivre plusieurs événements et vous pourrez également, bien sûr, revisiter encore une fois le château de Fontainebleau, ce qui est un vrai plaisir. Et pour tout savoir de ce festival de l'histoire de l'art qui a donc lieu du 2 au 4 juin, eh bien rendez-vous sur le site internet festivaldelhistoiredelart.com. Cette année, c'est la nature et les États-Unis qui sont mis à l'honneur. C'était l'école de Fontainebleau ou le rêve italien de François Ier dans Art Story. Une histoire, une œuvre d'art. Thank you.